Alors, on vous transmet les salutations des croyants du Sud-Ouest et du réseau RNC à laquelle nous appartenons, ainsi que votre Église. En fait, c'est une longue histoire, notre venue en Alsace, en tout cas ma venue en Alsace avec Sylvie et Jean et Babette. Il y a presque 30 ans de cela, je pense, il y a 31 ou 32 ans, il y a une sœur qu'on n'a pas revu depuis, je pense qu'elle doit être auprès du Seigneur, elle s'appelait Claire Mide ou Claire Lachère, c'est une prophétesse. Et un jour, au milieu de nous, alors qu'on s'était levé pour, avec la vision de Néhémie pour rebâtir et reconstruire la muraille, cette femme a dit, je vois une route de lumière entre le sud-ouest et le nord-est. Et elle a dit, je vois des ponts et des relations étroites entre le Grand Sud-Ouest et toute l'Alsace. Et cette parole-là a été très très forte. Nous, on n'avait aucune relation dans l'Est de la France, dans votre région. Et puis, surnaturellement, Dieu a créé des relations, rencontré des personnes de notre région. Et on a commencé à venir une première fois. Et en fait, c'est la première réunion que j'ai faite à Strasbourg. En fait, moi, j'avais l'impression d'avoir vécu un fiasco. Donc pour ceux qui connaissent Claude Gunner, qui est pasteur à Strasbourg, je suis allé voir Claude, j'ai dit, écoute, j'ai dû faire un flop, mais terrible ce soir, parce que personne n'a bougé. Et il m'a dit, mais André, t'es en Alsace ici. Je vais vous assurer, depuis, j'ai vu les Alsaciens bouger. Hein. Vraiment, vraiment. Mais si je suis là, c'est aussi à cause de la grâce que Dieu a mise, y compris dans la cité dans laquelle j'habite. Parce que sous l'occupation, donc il y a un régiment, vous savez, le régiment d'Astraïch qui est passé à Oradour, qui a tout cramé. Ils sont venus, comme il y avait des partisans dans la ville où j'habite, ils sont venus pour mettre le feu en Irak. Et le maire de la cité était un Alsacien, qui s'appelait Lobenemer. C'est un de chez vous, hein. Et cet homme-là était croyant, chrétien, engagé. Et il a plaidé la cause de l'Irak et les Allemands, les SS qui étaient là ont dit on ne mettra pas le feu à la ville, mais vous par contre on va vous tuer. Et cet homme a répondu avec un grand sourire, je suis prêt à mourir, je sais où je vais. Et ils ont été tellement décontenancés qu'ils sont partis avec leur bidon bourré d'essence et ils ont renoncé à mettre le feu en Irak. Et mon père et ma mère, quand j'étais petit, me racontaient cette histoire et je dis, Seigneur, un jour il faut que j'ai l'occasion de venir à Alsace pour remercier les Alsaciens d'avoir généré cet homme qui s'appelle Lobenemer et qui est venu voir les Français de l'intérieur et qui a apporté la grâce de Dieu. Alors, je voudrais vous dire qu'on vous aime vraiment et qu'on a beaucoup de joie d'être là en équipe ce soir. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis le vis-à-vis de l'église de Claude Gunner à Strasbourg. Et c'est une immense joie de voir aussi l'œuvre du Seigneur et l'histoire de cette région revenir de nouveau à la surface. C'est comme si ce qui s'est passé en termes de bénédiction et d'histoire pendant la réforme et même avant la réforme avec les mouvements monastiques de la région, c'est comme si le Seigneur à cause de ce qui avait été semé était en train de lever une génération qui va revenir dans cette dimension d'adorateur, de sacrificateur et de louangeur pour le roi dans cette région. On a partagé un petit peu avec Manuela et vos pasteurs et Luc. Et en fait, on a cherché, on a dit, mais qu'est-ce qui pourrait être le meilleur vecteur pour notre venue et qu'est-ce qui pourrait mettre comme les choses en mouvement. Et en fait, quand on visite une région, on aime bien commencer par le début. Et le thème de l'intimité me semblait approprié au temps dans lequel nous sommes et à la fois, c'est comme s'il y avait un besoin que Dieu allait combler par notre service pendant ces jours avec vous. On n'a aucune prétention, on n'est pas là avec arrogance, on vient libérer simplement la grâce de Dieu que Dieu a mis sur nous. Et on aimerait vous bénir, comme on a été béni aussi par vos pères. Notre région a reçu beaucoup de familles alsaciennes, hein, et ça c'est étonnant comme votre peuple est venu dans le Grand Sud-Ouest, a posé ses racines et souvent a amené la dimension de la foi, ce qui n'est pas négligeable. Donc on veut louer le Seigneur pour l'Alsace, la Grande Alsace, et louer Dieu pour le travail de restauration, de guérison, qu'il est en train d'opérer ici. Ce soir, quand on a commencé à louer Dieu, je voudrais remercier l'équipe de chantres. Merci pour votre sensibilité au Saint-Esprit, pour le choix des chants, et pour la présence de Dieu que vous amenez lorsque vous vous tenez devant le Seigneur, avec le peuple du Seigneur ici. Et ce que je voulais dire, c'est... Ah, je me suis perdu. Il y a quelque chose que je voulais partager qui était fort. C'était le fait que quand Dieu vient, il vient comme le bon berger. Et c'est ce que je voyais ce soir. J'avais envie de proclamer le psaume 23. L'Éternel est le berger de l'Alsace et les Alsaciens ne manqueront de rien. Il les fait reposer dans de verts pâturages. Il les mène à des eaux paisibles. Il restaure leur âme. Alléluia. Il les conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand ils traverseraient la vallée de l'ombre de la mort, ils n'en craindront aucun mal, car tu es avec eux. Alléluia. Ta houlette et ton bâton les rassurent. Tu dresses devant eux une table en face de l'adversaire. Oui, alléluia. Le bonheur et la grâce accompagnera l'Alsace tous les jours de sa vie. Et ils habiteront, les Alsaciens et les Alsaciennes, dans la maison de l'Éternel pour la durée des temps. C'est beau, hein? Donc je voyais le bon berger ce soir qui venait combler les besoins de votre assemblée et de cette région de Guebwiller. J'aimerais juste avant de commencer, donc, pour introduire, vous donner un témoignage de notre vécu, en tout cas de mon vécu, ce qui a été aussi à la base du ministère Samuel. C'est en fait une dimension à laquelle j'ai aspiré pendant des décennies. Je me suis converti dans les années 68. J'étais d'une assemblée d'arbistes, donc vraiment des frères étroits, hein, non, même pas frères larges, étroits de chez étroits, plus étroits, tu meurs, comme on dit chez nous. Et je me souviens que j'étais tout le temps en révolte contre l'équipe, les anciens. Et une fois, je racontais ça à Luc et Manuela à midi, et une fois, mon frère aîné était très, très enfermé dans le mouvement. Et un jour, en réaction, il m'a dit, nous sommes dans le temps de la dispensation du Saint-Esprit, on n'a plus besoin de signes, de prodiges, on n'a plus besoin de paroles prophétiques, on n'a plus besoin. J'ai dit, mais alors comment tu fais pour chasser les démons? Ah ben, il n'y a plus de démons. Ah bon, les gens sont malades, mais ils n'ont plus de démons. Alors j'ai pris ma Bible, j'ai déchiré la page d'Acte 2, et puis ensuite un Corinthiens 12, un Corinthiens 14, il était fou, il sautait partout, il dit, t'as pas le droit. J'ai dit, mais pourquoi garder un canon qui est mort? Moi, je veux un canon vivant, une Bible vivante. Et en fait, Dieu aussi a vu mon cœur et il m'a fait grâce. Je voulais combattre le Saint-Esprit et lui, bien sûr, il est Seigneur et il m'a résisté pendant 14 ans après ma conversion. Et c'est seulement en 81 que j'ai eu la grâce vraiment d'être rempli du Saint-Esprit avec mon épouse. Voilà. On s'est mariés, donc entre-temps, on a eu un petit garçon qu'on appelait Nathanaël. On avait fait un vieux rêve, mon épouse et moi. Quand elle m'a rencontré, enfin on s'est rencontré une première fois, j'avais 11 ans, elle avait 10 ans, et comme elle a vu que mon cœur n'était pas entièrement consacré à Jésus, elle a dit, je ne m'associe pas avec un incrédule. Et elle m'a plaqué à 11 ans, et elle 10 ans. Et c'était terrible pour mon âme de savoir qu'une fille m'avait résisté et avait dit non, sous prétexte que je n'étais pas encore chrétien. Mais ça démontrait aussi le choix et la radicalité de sa vie. Et quelques années plus tard, le Seigneur m'a rencontré et de nouveau, j'ai eu envie de revoir cette demoiselle. Elle était plus jolie que jamais. Et comme j'étais né de nouveau, je dis, maintenant, je vais retenter ma chance. Et alors que nous étions, elle rentrait d'un voyage en Grèce, c'était épique, avec mon frère et donc son frère, et une vieille deux chevaux, donc, avec des casques coloniaux, parce que moi, j'étais marchand de chapeau autrefois, donc j'avais donné des casques coloniaux pour le voyage en Grèce. Et quand ils sont rentrés, elle m'a posé une question. Elle a dit d'abord, elle m'a dit, alors, j'avais écrit un poste restant à Athènes, tu seras la femme de ma vie, sinon je renonce au mariage, elle n'en prenait aucune. Elle était très en colère lorsqu'elle a reçu la lettre en poste restant à Athènes. Elle n'a pas répondu, et quand elle est rentrée, elle m'a fait patienter encore plusieurs heures, avant de dire, demain, je te donnerai la réponse. Et donc, j'ai dû attendre encore un jour, monter à la voiture, et là, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je dis, ça, c'est la question piège. Si je réponds bien, c'est bon. Si je réponds de travers, adieu le mariage. Alors, j'ai dit, mais quelle est la réponse qui va la faire craquer? Et une inspiration subite m'a traversé l'esprit. Je crois qu'il n'y avait aucune réalité dans la teneur de mes paroles que je prononce à ce moment-là, c'était purement émotionnel, mais j'ai dit, je veux servir Dieu. Et elle m'a dit, c'est d'accord. Elle m'a tendu la main et je me suis dit dans mon cœur, je l'ai eu. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a convoqué l'ange Gabriel, il a dit, écrit dans le livre, André de Benet, bon pour le service. Nos paroles ont toujours une incidence. Cette parole était purement émotionnelle. Il n'y avait aucune réalité de révélation. J'avais un certain amour pour Jésus, mais il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de réalité de communion que je connais, que nous connaissons aujourd'hui. Et mon âme, sous l'émotion, sous l'impulsion, a dit, je veux servir Dieu. Alors elle m'a dit, c'est d'accord. C'était génial. 7 ans après, on s'est mariés. 7 ans fiancés, ce n'est pas conseillé, on s'est mariés sans craquer. Et une année ou un an et demi après le mariage, c'était un fiasco complet. Tous nos rêves ont été brisés. Tout ce qu'on avait prémédité, tout ce qu'on avait partagé, tout ce qu'on avait communiqué, tout ce qu'on avait prié, tout était en train de s'écrouler. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit est venu dans nos vies. Là, ça a bouleversé nos vies. Ça, c'était dans cette année fantastique de 81, où en quelques heures, tous les deux, on était remplis du Saint-Esprit. C'était tellement puissant, ce baptême du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Philippe Jauret, j'ai rencontré Roland Ponce, Fabienne Ponce, Dominique, j'ai rencontré plusieurs frères et sœurs qui avaient reçu le même mandat que moi, rebâtir la muraille. Le livre de chevet que j'avais, que nous avions, c'était Néhémie. Finalement, on s'est levé une équipe hétéroclite. Écoutez, c'était vraiment un amalgame de personnes avec des arrière-plans complètement différents. Vous prenez deux réformés, des purs et des vrais réformés, et puis un ou deux darbistes, en passant par un ou deux pentecôtistes, et puis un qui venait de l'Église libre, vous secouez tout ça, et là, c'est un truc pas possible, quoi. Mais malgré cela, voyez-vous, le Saint-Esprit nous a dit, mais si vous vous ralliez ensemble, vous allez bâtir quelque chose de solide dans le pays. Et notre désir, c'était de voir le pays de France restauré. En 81, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, je te donne l'appel de Jérémie, dont je savais que j'avais certainement une dimension prophétique. Après, je ne savais pas que Jérémie, c'était le prophète qui pleure. Et dans les 10 ans qui ont suivi, ça a été des larmes, souffrance, avec des temps de dépression profonde. Vous savez, j'ai écrit ça dans mon premier livre. Vous avez un stand avec plusieurs témoignages des livres que nous avons écrits avec Sylvie ou moi. Et je raconte comment, alors que je me croyais invulnérable, Dieu m'a mené dans une détresse. Je crois que c'est Dieu qui m'a mené dans sa prison. Et il m'a fait connaître la profondeur de Satan. Et je vous assure, c'était terrible. Moi qui disais, je veux voir le monde spirituel, j'ai vu le monde spirituel et j'ai eu peur. Terriblement peur, terriblement angoissé. J'étais dans une paranoïa pas possible. Je ne pouvais passer d'une chambre à l'autre sans que mon épouse soit là. Et ça a duré près de 10 ans. Voyez-vous la grâce de Dieu. Regardez comment je suis bien, là, beau, souriant, rempli du Saint-Esprit. Je vous assure, vous allez voir, ça déborde de nos vies, ça déborde de ma vie. C'est une onction, une grâce, une présence que je ne peux pas contenir tellement elle est glorieuse. Et ça, c'est l'œuvre de la croix dans nos vies et dans ma vie. Et Jean pourra témoigner aussi de son cheminement, qui est un cheminement différent mais complètement parallèle à ce que nous avons vécu. Et celui de Babette aussi, qui a connu des temps difficiles. Et mon épouse et moi-même, et nous sommes là ce soir pour vous dire, nous sommes là pour vous servir, pour raconter les œuvres et les merveilles de Dieu. Donc, plusieurs années ont passé, on a commencé une église locale dans la maison, et puis après Dieu m'a dit, non, je te demande de passer à un autre stade, et pour cela tu vas donner la direction de l'église locale à ton second, ce que j'ai fait, ça n'a pas été facile, et puis là je me suis trouvé, pas errant mais presque, je savais que ma place n'est plus dans l'église locale, j'avais besoin d'une dimension de protection, d'accompagnement supérieur, et je m'en suis réellement remis à l'équipe apostolique. Qui voyait aussi que nous étions en train de chercher. Et l'église, je ne voulais pas aller. Ne dis jamais à Dieu, je ne veux jamais aller là. Parce que tu es sûr que Dieu va t'envoyer là. Et en fait, là où je ne voulais pas aller, c'était une ancienne église pentecôtiste à Auch. Un jour, Jésus m'a dit, pose tes valises. Et c'est à 70 km de la maison, ça fait 22 ans qu'on est dans cette église locale. Et les choix de Dieu sont pertinents, n'est-ce pas? Dieu ne se trompe jamais. Les années ont passé, et le vieux rêve est mort. Où moi je suis mort. Le rêve de Dieu est toujours vivant, mais moi j'ai été mort. Et en 95, quelque chose de particulier s'est passé. Je me suis trouvé en train de lire un livre. J'étais en recherche avec une soif de Dieu que rien ne pouvait étancher. Et il y a un livre qui sortait, et je l'ai eu au travers d'une sœur qui traduisait cette personne. Je vois, vous vous souvenez de Ruth Eflin? Et cette personne a écrit un livre, je crois, c'était La gloire sur ta maison, ou Louange, ou ta gloire, voilà. J'ai lu ce manuscrit, et quand j'ai lu ce manuscrit, j'ai vu une femme qui vivait une dimension que moi je ne vivais pas. La dimension qu'elle décrivait est une dimension de relation, d'intimité avec Jésus, qu'elle n'arrêtait pas d'appeler son bien-aimé. Et j'ai dit, mais Jésus, moi je veux ça. Et quand j'ai terminé le livre, vous voyez parfois comme un livre peut-être utile, quand j'ai terminé le livre, j'ai posé ce livre sur la table dans mon bureau. J'étais dans un fauteuil confortablement installé. Et puis à ce moment-là, j'ai dit, Jésus, fais-moi connaître la dimension que ta servante a connue. Et quelque chose s'est passé. J'ai commencé à pleurer. J'avais jamais pleuré de toute façon. C'était des larmes d'amour qui commençaient à couler de mes yeux. Et il y a eu une... C'est comme si mon cœur se remplissait d'une dimension d'affection pour mon bien-aimé que je ne connaissais pas non plus. J'étais en train de chavirer et c'est tellement fort, tellement puissant que j'ai eu peur. Vous savez pourquoi ? C'est comme si quelque chose de ma virilité d'homme était en train d'être changé par l'Esprit Saint. Et j'ai eu terriblement peur. J'ai dit, mais c'est comme si Dieu me disait, tu vas perdre quelque chose de ta culture d'homme et de serviteur du Seigneur. Et quand je savais que c'était l'œuvre de Jésus, j'ai dit, mais fais-le à fond, quoi. Et je me suis retrouvé en sanglots sur la moquette pendant près d'une heure. Et je dis, Jésus, je t'en supplie, surtout que ma femme ne rentre pas, que personne ne rentre, que la porte soit fermée par tes anges. Et il y a eu un moment d'intimité avec Jésus qui a commencé dans cette heure-là. Écoutez bien, ça ne s'est jamais arrêté depuis. C'était quelque chose de tellement puissant. Je ne pensais pas qu'on puisse aimer avec une telle force, avec une telle affection, avec une telle passion. Et ce soir, j'ai envie de vous donner envie. Où le Saint-Esprit a envie que vous connaissiez cette dimension. Elle est pour tous. Elle est pour les femmes, elle est pour les hommes, elle est pour les jeunes gens, elle est pour les jeunes filles. Et en fait, j'ai commencé à méditer le Cantique des Cantiques. Vous savez, moi, l'approche que j'avais du Cantique des Cantiques, je disais, mais ce livre ne devrait pas se trouver dans la parole de Dieu. C'est un livre, excusez-moi, pour les dames. Et j'ai commencé à me nourrir de la parole du Cantique des Cantiques. Et chaque chapitre, chaque verset, c'était comme si Dieu venait enflammer, libérer, communiquer quelque chose de sa grâce. Et ce que je vous propose dans ces jours, c'est de poursuivre, de faire une étude, pas trop approfondie parce qu'on n'a pas le temps, de ce merveilleux livre qui s'appelle Le Cantique des Cantiques. Alléluia. Où on voit un homme, on suppose que c'est Salomon, mais d'autres pensent que c'était en fait un berger, c'était pas forcément le roi Salomon. Quoi qu'il en soit, l'important, ce n'est pas l'auteur du livre, c'est le contenu et ce que ce livre veut nous communiquer. Donc je vais vous inviter, on va passer à la diapositive suivante, c'est la flèche droite. C'est pas. Voilà, s'il y a un domaine de nos vies qui a besoin d'être racheté, c'est celui de l'intimité. Comment penser que nous puissions être prophétiques si nous n'avons pas de relation étroite avec notre bien-aimé ? Tous les prophètes de Dieu étaient des amoureux de la présence de Dieu, Moïse, Élie, Josué, Jésus, Paul et tant de ses apôtres et de ses disciples jusqu'à aujourd'hui. On va le voir, ce qui amène la présence de Dieu et son onction, c'est la passion de ses fils et de ses filles. Tout est conditionnel de cette passion. Tu veux voir et connaître le ciel, voir sa gloire, cherche encore à développer ta relation à Dieu et son fils et tu vas voir les cieux s'ouvrir pour toi. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouveront. Proverbe 8. Introduction, donc, Dieu veut un amour exclusif. Alléluia. Et ça, c'est important. Dieu ne partage pas. Il partage sa gloire avec ses fils, mais il ne peut pas supporter la cohabitation. Et c'est pour cela, souvent, qu'il y a des problèmes dans nos vies. Je me souviens d'un de mes amis qui disait, sois un vrai païen ou sois un vrai chrétien. Et avant de se convertir, alors qu'une jeune fille qui allait devenir sa femme, l'évangéliser, il lui disait, ce qui m'interpelle en toi, c'est qu'il y a une passion est quelque chose de puissant par rapport à celui que tu appelles Jésus. Si je me convertis, moi qui suis un vrai païen, je serai un vrai chrétien. Et ça a été un homme qui est devenu un serviteur du Seigneur, fantastique. Il se trouve au Canada aujourd'hui, c'est Philippe Jorin. Et cette passion qu'il avait m'a été communiquée, alléluia. Cette rencontre avec les bien-aimés m'a amené à comprendre que Dieu n'est pas un Dieu qui partage. C'est un Dieu exclusif, alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul, donc j'ai relevé quelques points rapides. Dieu est le seul Dieu vivant. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alléluia. Un autre point que j'aimerais partager, on va avancer dans l'introduction. Dieu est amour et il a fait de nous des fils et des filles et non des bâtards. C'est pour cela que Dieu veut un amour exclusif. Parce que tu es fils et fille de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a fait de toi, on va le voir, quelqu'un qui a été associé à la dimension de sa gloire. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens au chapitre 2, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Dieu est passionné, notre point, c'est que Dieu est passionné par sa créature parce que nous sommes le sommet de sa création. Il n'y a pas d'être supérieur en tant que création sinon l'homme. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est quelque chose de fabuleux. Il y a quelque chose qui est intéressant dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. C'est-à-dire qu'il soit son vis-à-vis, pas un être inférieur, un être qui sera son vis-à-vis, qui va être le complément de ce qu'il est. Et la Bible nous dit que Dieu fit passer toute la création devant l'homme. Et même la plus belle guenon ne pouvait pas être uni à l'homme. Alors Dieu a fait quelque chose de fabuleux, de fantastique. C'est Dieu. Il a pris une côte de l'homme et il l'a mis à côté. C'est pour ça que la femme Isha, elle est sortie de la côte de l'homme. C'est la femme d'à côté. Alléluia. Ils sont tous les deux nus. Ils n'ont pas honte jusqu'à ce que le péché soit révélé. Pourquoi Dieu veut un amour exclusif, le point D, c'est parce que nous portons son image et l'image de son Fils, car Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit habitent en nous. Alléluia. Nous sommes, non seulement nous sommes fils et filles de Dieu, mais nous portons la gloire de Dieu. Vous tous, n'est-ce pas, qui portez la gloire du Seigneur, vous êtes transportés de gloire en gloire. Tu portes en toi le Christ, tu portes en toi le Saint-Esprit, tu portes en toi le Père. Et l'image de ce que tu es, c'est l'image de Dieu. Le monde attend quoi ? Romains 8, la révélation des fils et des filles de Dieu. De ceux qui lui ressemblent. Je vous raconterai une histoire tout à l'heure, ou peut-être demain, concernant la dimension de la joie. Comment le monde nous interpelle, nous a interpellés dans un restaurant avec Jean, il y a à peine 2 mois de cela, où le personne a été saisi par la joie qui était en nous. Et cette femme qui était malade, elle a posé cette question incroyable. Elle a dit, mais pourquoi une telle joie en vous ? C'est parce qu'on lui a dit qu'on était heureux. Nous, on était en train de manger dans un restaurant de poissons, quelque chose de fantastique. Et toutes les 3 bouchées, on s'exclamait, on disait, mais que c'est bon, Jean, mais que c'est bon. Et cette dame, elle n'en pouvait plus, elle était malade. Complètement écrasée par un cancer. Et au milieu de notre joie, elle est venue en disant, mais en fait, faites-moi partager votre joie. C'était ça son cri. Pourquoi vous êtes si heureux? Parce que la marque du Fils est à nous. Vous savez, j'ai vu des malades guéris en disant aux personnes, regarde-moi. La communication du Saint-Esprit, la marque de Jésus, elle est en toi. Et plus tu vas prendre conscience de la ressemblance que tu es en tant que femme ou homme à la personne de Jésus, et plus le monde va voir en toi celui qui représente le ciel et la gloire de son nom. Alléluia. Dieu veut un amour exclusif parce qu'il nous a fiancés à un seul mari. Dans la dimension du royaume de Dieu, il n'y a pas de deuxième bureau, hein, comme on le dit en Afrique. Il n'y a pas d'adultère. Il y a la fidélité. Cette année, avec Sylvie, nous célébrons nos 40 ans de mariage. Vous pouvez applaudir. 40 ans de fidélité, de loyauté, d'amour et de grâce, avec des moments parfois qui n'étaient pas faciles, mais vous savez que l'amour et la fidélité sont des choix. L'amour, c'est comme le pardon, c'est un sentiment. C'est plus qu'un sentiment, c'est une décision. Je fais le choix d'aimer, je fais le choix de pardonner. Je fais le choix d'être fidèle à ma femme, elle a fait le choix d'être fidèle à son mari. Et 40 ans après, on s'aime comme au premier jour. C'est beau, hein? Alléluia. Je suis fier de ma femme. Pourquoi Dieu veut l'amour exclusif? Parce qu'il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse, on va en reparler dans ces jours. Hein. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes établis selon l'ordre de Melchisédek. Et nous servons dans le royaume. Et on va le voir dans ces jours. On ne sert pas, c'est bien au-delà de la terre lorsqu'on adore Dieu. En fait, on adore dans le ciel. On adore avec le monde spirituel de gloire. On adore avec le Seigneur. On adore avec les saints. Alléluia. Il y a quelques temps de cela, alors que j'étais dans un temps d'adoration, dans une école prophétique, tout à coup j'ai vu le ciel ouvert et j'ai vu les saints, des hommes, vous entendez, des hommes et des femmes qui étaient en train d'adorer Jésus en même temps que nous. Il n'y avait plus de séparation entre le ciel et la terre. On était un peuple ensemble, d'hommes vivant sur la terre et d'hommes rachetés dans le ciel qui adoraient le roi de gloire. Et c'était quelque chose de fabuleux. Alléluia. Et bien sûr, il veut un amour exclusif parce que son esprit habite en nous. Alors nous envoie le message maintenant, quelques points qui vont nous permettre d'entrer dans la chambre du bien-aimé et on va voir ce qui va se passer dans ce lieu d'amour. Donc, la première des choses, c'est la passion ou la fin de Dieu. Alléluia. Si tu n'as... Pardon ? Oui, pardon. Il y a quelques fautes de... Aller au-delà des fautes et saisissez le message. La passion, c'est quoi ? La passion, c'est quand l'amour est tellement brûlant que plus rien ne compte que la personne qu'on aime. Et ça, c'est la condition pour être visité et pour être en communication avec le ciel. Dieu a fait de nous des fils et des filles et il désire ardemment que nous soyons passionnés de qui il est. La passion, c'est un amour qui est violent, qui ne se partage pas. La passion de Dieu, elle nous entraîne, on le verra dans ces jours, dans les choses extravagantes. Elle nous amène à faire des choses incroyables. La passion va mettre en nous la compassion de Dieu. La passion va nous amener à faire des choix radicaux qui vont nous mettre en pétard avec le monde religieux. La passion, elle est explosive parce qu'elle est créative. La passion libère l'esprit de prophétie. La passion produit le miracle. La passion nous remplit du vin nouveau. La passion nous permet de vivre le royaume avant l'heure. Alléluia. Si Jésus disait, le royaume est déjà au milieu de vous, il s'adresse à ses disciples, je vais vous dire, le royaume est déjà au milieu de nous. Il y a juste une différence. Il y a des choses qui doivent changer dans notre culture et dans ce que nous sommes pour que la puissance de Dieu puisse nous toucher et que nous soyons transformés. On voit David qui était un homme qui a soif de Dieu. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Donc là, c'est le fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, et paraîtrai-je devant ta face, ô Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Psaume de David, alors ça j'aime. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Si tu as soif de Dieu, si tu as soif de sa présence, il va se passer quelque chose dans ta vie. Dieu ne donne pas à boire à ceux qui n'ont pas soif. Et malheureusement, vous savez, on a tellement reçu parfois qu'on arrive à ne plus avoir faim ni soif de la présence de Dieu. Et à ce moment-là, nous faisons quoi ? Nous exerçons un rite religieux, mais nous ne sommes plus sacrificateurs du Dieu vivant. La passion, elle nous amène à la soif. David, pour moi, est un type extraordinaire, d'un passionné de Dieu, malgré ses fautes, malgré ses chutes. Cet homme-là, c'est un homme qui va être violent dans sa marche avec Dieu. Il fait un acte qu'aucun autre roi n'a fait avant lui. Aucun prophète n'a fait ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait, Il est allé à Gabaon, là où il y avait l'arche de l'Éternel. Il est allé chercher l'arche de l'Éternel. Il a amené l'arche de son propre chef à Jérusalem. Il voulait que la présence de Dieu soit tellement près de lui. Gabaon était trop loin, alors qu'il y avait une maison aussi à Jérusalem. Mais David veut la maison de Dieu, tout près de sa maison. Il lui construit une tente et il instaure un service fabuleux. C'est le service qu'on voit dans les maisons de prière qui se lèvent partout en France. C'est le retour de l'arche au milieu de la cité. La présence de Dieu, alléluia, et une sacrificature qui ne s'arrête pas. Il instaure un service, écoutez bien, 24 heures sur 24, et ça va durer pendant plusieurs décennies. Ça, c'est la dimension du royaume de Dieu. C'est ça qui fait la différence. La passion de Dieu, elle réveille en nous la soif de Dieu. Oh Dieu, où es-tu? Je l'ai tellement cherché. Je l'ai tellement cherché, avant d'avoir lu ce livre. J'étais en désespérance, voyez-vous. Les paroles, les messages, même la lecture de la parole de Dieu à laquelle j'étais assidu, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me gênait, jusqu'au jour où quelque chose a craqué dans mon être intérieur. En fait, ma culture, je vais en parler, a été bouleversée par la rencontre avec le bien-aimé. Est-ce que tu es prêt ce soir? Ah, Dieu Jésus, viens bouleverser ma culture. Viens renverser mes raisonnements. Seigneur, j'aimerais éprouver. Tout à l'heure, moi, je voyais Jésus qui venait faire des câlins au milieu de nous. Là. Est-ce que tu veux le câlin de Dieu ce soir? Pas seulement le câlin de la consolation, mais le câlin de l'amour. Waouh. Vous savez, il n'y a que les passionnés qui réussissent et qui voient la gloire de Dieu. Et la passion, elle est renouvelée. Elle est renouvelée sans arrêt depuis toutes ces années, depuis 1995. La passion pour Dieu dans mon âme n'a jamais, jamais, jamais diminué d'intensité. Et chaque fois qu'elle pourrait diminuer, j'entre, s'il le faut, dans le jeûne et la prière, et je dis, Seigneur, redonne-moi la passion de ton nom. Mon âme a soif de toi, dit David. On est allé dans ce désert du Juda, avec quelques-uns de l'équipe du mystère Samuel, et on est allé près de cette source qui coule. Et quand je réalise que c'est là qu'il a composé ces psaumes, c'est absolument fabuleux, quoi. J'aimerais que ce soir tu dises à Dieu, ou tu commences à dire dans ton esprit, proclamer, Seigneur, mon âme a soif de toi. J'ai soif de toi, j'en peux plus. Seigneur, tu vois comme je suis désespéré. J'ai besoin d'un réveil. J'ai chanté cela tout à l'heure, vous avez entendu? Il veut réveiller l'amour ce soir. Il veut réveiller ta passion. Il n'y a aucune accusation. Il vient m'entendre entendu en disant que tu n'es pas à la hauteur. Il vient te dire, est-ce que tu veux que je réveille en toi l'amour? Est-ce que tu veux que je réveille la passion pour mon nom? Est-ce que tu veux que ta vie soit changée? Tout à l'heure, j'étais sur mon lit en train de me préparer, puis cette femme fantastique que vous avez comme pastourelle, Manuela, a commencé à adorer le Seigneur avec son piano là, pendant une heure. Je lui ai dit, mais c'est une vraie passionnée de la maison du Père. Et ça, vous savez, ça change l'atmosphère d'une maison. Quand vous avez ce climat de passion et d'amour pour la présence de Dieu, ça change toute chose. Donc le deuxième point important, alléluia, c'est que cette soif, cette passion, elle va changer notre identité. En fait, quand on aime Dieu et qu'on le lui dit, on va avoir envie de ressembler de plus en plus au bien-aimé. Donc, on va travailler et coopérer avec le Saint-Esprit qui va venir te dire, j'aurai transformé ta culture. Je voudrais que toi, l'homme, tu fasses des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et la culture du royaume, elle n'est pas alignée sur la culture de ce monde, vous comprenez? La culture du royaume, elle nous rend extravagants. Elle nous permet de sauter, de danser. Je ne vous dirai pas le nom de la ville, mais il y a un pasteur de votre région. Il assistait à un séminaire que je faisais sur le bien-aimé, ou sur le vin nouveau, je crois. Et à un moment donné, je dis, vous savez, l'Esprit de Dieu, lorsque les hommes sont en effervescence et le cherchent, l'Esprit de Dieu les met sans dessus dessous parfois. Et de vénérables anciens peuvent être changés. Et il y avait là un ancien de l'Église. avec son costard et sa cravate. Et tout à coup, mais la prédication, j'entends un grand bruit. Et je me retourne sur ma droite. Et il y avait ce vénérable ancien qui était en train de faire le piqué contre la porte. Pendant 20 minutes, j'étais écroulé, j'étais mort de rire. C'est ce gars-là, vous savez, il était tellement sérieux dans son costard avec sa cravate. Quand je l'ai vu faire le piqué, avoir la cravate sur lui, qu'il y barrait la figure, j'ai dit, mais Seigneur, tu te plais à mettre les gens sans dessus dessous. Et cet aspect avait quelque chose de ridicule, mais c'est tellement glorieux. La réunion suivante, il a remis ça, le frère. Il a été changé par cet enseignement. Est-ce que, sans chercher à forcément le ridicule, on ne cherche pas le ridicule. Mais la passion de Dieu va parfois t'amener à faire des choses qui dépassent la mesure qui est la norme. Il y avait un jour dans une église, un ancien qui était là, parmi d'autres anciens, devant, et au milieu du culte, le Seigneur lui dit, fais la roue. Et il dit à Jésus, Jésus, je suis là pour t'adorer, te servir. Et le Seigneur m'a dit, adore-moi en faisant la roue. Et ce gars-là qui aimait Jésus, il a dit, je vais me couvrir de ridicule, mais Seigneur, sur ta parole, je vais faire la roue. Et il s'élance d'un coup, et il fait une magnifique roue devant toute l'église. Et les anciens le regardent, ils ont dit, le frère, il a pété un câble. Et à peine s'est-il rassis à sa place, un peu confus, il y a un homme qui arrive du fond de la salle. C'était un incrédule qui était rentré. Il avait dit, Dieu, si tu existes, que cet ancien cravaté fasse la roue devant moi. Est-ce que vous êtes prêts à obéir à cause de la folie de Dieu en vous? Jean vous en parlera, mais il a fait des actes insensés. Insensés. Parce que sa passion pour Dieu était plus sage que la sagesse des hommes. Et j'ai vu des miracles de Dieu de toute nature, y compris des résurrections. J'ai vu deux résurrections à cause de la passion que nous avions pour le Seigneur. Parce que quand Dieu veut se glorifier, il utilise les passionnés et ceux qui n'ont pas peur de se couvrir de ridicule pour manifester sa puissance et manifester sa gloire. Alors cette soif, elle change notre identité. Et là, j'aimerais vous parler quelques instants, je ne vais pas être très long, sur l'onction de la France. La France, elle a reçu une onction prophétique forte, c'est l'onction de Jean. Et de plus en plus, des prophètes viennent en France et disent dans les églises qu'ils visitent, la France a reçu l'onction de Jean et c'est une onction de passion. Alléluia. Donc André de Benet, vous avez vu, hein, il a reçu l'onction de Jean. Et cette passion-là, en fait, c'est l'onction que Dieu a mis sur la France. Écoutez-moi, écoutez, il n'y a pas un autre peuple qui ait vécu ce que les Français ont vécu. Le mouvement prophétique des Cévennes, les équipes de prophètes n'ont jamais existé en dehors de la France et d'Israël. Et cette onction de Jean, de passion, elle nous amène à voir le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faudrait lire Jean 4 maintenant. Jean 4, il nous dit quoi ? Apocalypse 4, pardon, hein, de Jean. Il nous dit, je vis une porte ouverte dans le ciel. Et Jean a une révélation de la gloire de Dieu. Il voit un être extraordinaire, rempli de lumière. Il entend des coups de tonnerre. Il entend des bruits de grandes eaux. Il est en communication avec le ciel. Et il se met à prophétiser à ce moment-là. Et il parle sur les églises, alléluia. Et il parle sur l'eschatologie, sur le retour de Jésus, sur le royaume à venir, sur la gloire de la nouvelle maison, vous savez, Apocalypse 21, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Il y a quelques années, je posais la question à Jésus, j'ai dit, mais c'est quoi la Jérusalem céleste? Jésus m'a dit, c'est la cité des nations transformée par la gloire de mon nom et de mon royaume. La ville de Guebwiller transformée par la venue de Jésus. Vous réalisez un petit peu, le royaume qui vient, alléluia. Moi, ça me plaît ça, plus que de parler d'un hypothétique enlèvement. Mais la gloire du Seigneur qui vient et qui transforme toutes choses. La gloire qui enlève le péché, la puissance du diable qui est jetée dehors. Guebwiller sans péché, une seule soirée, vous vous rendez compte? La gloire de Dieu. Wow. Et Dieu nous a, il a mis en nous cette onction de passion. Et la passion, c'est ce qui ouvre la porte au prophétique. La parole inspirée ou les paroles prophétiques, elles sont données aux passionnés de Dieu. Quand tu es dans le ciel, tu es capable de parler de ce que tu vois, de ce que tu entends. Je parlais, c'était à midi, je racontais une histoire avec un frère, j'ai connu un frère allemand magnifique qui s'appelait Schiffmann, qui était un prophète aussi. Et un jour, moi je n'étais pas encore arrivé à ce niveau-là, mais il nous a dit, vous savez, le ciel est ouvert pour les passionnés. Et dans le ciel, il y a des coups de canon, il y a des bruits bizarres. Et j'ai dit, le frère, là, ça ne va plus du tout. Son eschatologie est à revoir. Mais la nuit suivante, au milieu de la nuit, à 2h du matin, alors que je dors profondément, j'entends bim, bam, boum. Et je me réveille dans mon lit, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me dit, c'est les canons du ciel. Voyez-vous, j'aimerais vous dire que la terre d'Alsace, elle attend que les passionnés de Dieu, que les amoureux du Seigneur aillent dire dans les rues de Guebwiller, le royaume vient. L'Alsace, elle attend que des hommes et des femmes, des jeunes gens et des enfants prophétisent et annoncent le royaume de Dieu. Guebwiller attend que des hommes et des femmes appellent une nouvelle économie, l'économie du royaume. Une économie qui n'est plus basée sur la rentabilité, sur l'oppression des pauvres, qui devient toujours plus pauvre et des riches toujours plus riches, mais une économie basée sur la solidarité et sur le partage des biens. Alléluia. La terre d'Alsace attend des hommes et des femmes qui vont travailler l'unité des églises, qui vont travailler à l'unité entre les hommes et les femmes, parce qu'en Christ, il n'y a plus de séparation. Alléluia. Vous savez quel est mon meilleur partenaire et mon meilleur ministère? C'est ma femme. Et plus ça va, plus je réalise la gloire de Dieu dans ce qu'il a mis dans ma bien-aimée, qui n'est pas ma subordonnée. Elle est mon vis-à-vis. On a des rôles différents, certes, mais quelle gloire d'être complété par sa bien-aimée. Alléluia. Voyez-vous, la dimension du ciel, c'est l'esprit de prophétie qui nous permet d'annoncer les desseins de Dieu. Annonce la vie. Tu as des enfants, ils ne sont pas encore entrés dans la dimension du royaume. Prophétise le retour de Jésus dans leur vie. Prophétise la vie abondante du royaume de Dieu dans leur vie. J'avais 3 neveux. Il y a quelques années, ils ont fait un délire. Fils de pasteur, ils ont dit, nous allons partir loin de papa et maman, loin de tonton André. Comme ça, on n'aura plus nous regarder avec ses yeux qui voient tout. Et on échappera à toute cette engeance. Et ils sont partis au fin fond des Antilles. Et ils buvaient à 3, écoutez bien, un litre de rhum antillais par jour. Ils étaient bien. Ouais. Ils étaient même très mal. Et ma soeur, ma petite soeur Elisabeth, qui est pasteur à Aisine, à Bordeaux, elle me téléphone, elle était dans les larmes, dans une dépression profonde. Elle me disait, André, mes fils et notre neveu ils sont perdus. Ils sont partis aux Antilles, ils boivent comme des trous. Et je dis à ma soeur, nous allons voir qui va terminer, comment se termine l'histoire. J'ai dit, qui c'est qui sont en autorité? C'est nous. Tes fils ont une destinée pour le royaume de Dieu. Et le neveu a une destinée dans le royaume de Dieu. On ne va pas laisser l'avantage au diable. J'ai dit, nous allons lever une équipe d'intercesseurs jour et nuit pour ces jeunes gens. Et j'ai dit à ma soeur, ils vont craquer. Ils ne pourront pas résister à la puissance de l'onction. Ça a duré des mois. On priait, les pasteurs, les membres de l'équipe du ministère, Samuel, Samuel n'était pas encore né, mais les membres de l'équipe de Néhémie priaient. Je me souviens, Roland qui priait pour le retour des enfants d'Élisabeth. Et moi, je disais, amen, je sais qu'ils vont dire. Et on prophétisait, on disait, revenez au nom de Jésus. Et un jour, ma sœur m'appelle. Elle pleurait au téléphone, mais c'était de joie. La dépression avait été changée en compression. Elle disait, André, nos enfants, mes enfants sont sauvés. J'ai dit, j'en ai pas douté une seconde. Et elle me dit la chose suivante. Ils n'avaient plus d'alcool. Ils n'avaient plus de rhum. Et ils se baladaient désespérément sur la plage, essayant de trouver quelques sous pour acheter du rhum, pour assouvir leur addiction. Et ils rencontrent un monsieur. Et le monsieur leur dit, vous faites quoi, jeunes gens? Et elle dit, nous sommes désœuvrés. Écoutez, ma fille se marie cet après-midi, je vous invite au mariage. Et ils se disent, nous allons pouvoir nous saouler à l'œil dans ce mariage. Et cet homme-là était un pasteur de Dieu. Il a donné une prédication. Les trois jeunes gens, saisis par la puissance du Saint-Esprit, ils tombent à la renverse. Ils se repentent. Ils donnent leur vie à Jésus. En 15 jours, tous les trois, ils ont lu intégralement la parole de Dieu. Ils sont rentrés en France. Ils n'ont jamais pu quitter le Seigneur. Alléluia. On peut applaudir Jésus, hein? Voyez-vous, la soif de Dieu, elle change notre identité. Elle nous permet de comprendre, de croire les choses que Dieu a déclarées. Alléluia. Ça prend parfois le temps. En 81, Dieu m'a parlé d'école prophétique, de relever des... J'allais servir à relever avec d'autres les hôtels des prophètes en France. 14 ans, les choses sont restées en l'état. Rien n'a bougé. Mais Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel, comme il dira en Romains 11, concernant Israël. Et 14 ans après, Dieu m'a appelé, alléluia. Et il m'a dit, va chercher les fils des prophètes. Deux fois. D'abord en 90, 91, à venue de l'île Lacoste, dans notre région. Moi, j'étais planqué, je sortais de ma dépression, je voulais qu'on me foute la paix. Planqué derrière le pilier de l'église, il m'appelle, André, va chercher les fils des prophètes. Il revient l'année suivante, remets parole. Extraordinaire, quand Dieu cherche un homme. 4 ans après, je me suis présenté devant Dieu, il m'a dit, maintenant. Alléluia. Romains 4, décidez, vous connaissez. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. La passion engendre la foi. La passion te permet de croire à ce que tu ne vois pas encore. Alléluia. Le 11 des Hébreux nous parle d'hommes et de femmes qui avaient une telle perception de la gloire de Dieu qu'ils ont donné leur vie. La Bible nous dit que le monde n'était même pas digne de les recevoir. Et ils ont vu en espérance ce que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez que des hommes et des femmes dans ce pays d'Alsace ont prophétisé ce qui se passe aujourd'hui dans votre église ici? Un jour, Dieu m'a dit, mais André, tu n'es pas fait tout seul. Et à ce moment-là, j'ai vu la ligne des témoins. Tous ceux qui avant moi ont prié dans ma famille pour que le flambeau ne quitte pas la famille de Benest. Alléluia. Dieu est fidèle. On a prophétisé la vie sur chacun de nos enfants. Je vous assure, quand le ciel a été ouvert, on a compris qu'on pouvait demander des choses extraordinaires au Seigneur. Et quand ma femme est tombée enceinte des 4 enfants, alléluia, les 4 enfants sont venus au monde, elle a dit, tu seras serviteur de l'Éternel. Tous les 5. Ils se sont convertis entre l'âge de 3 et 5 ans. On raconte ça dans le livre qui est à votre service là. Alléluia. Une famille formidable, une famille, un véritable challenge. Vous rencontrez Pirelli, mon troisième fils, vous parlez 5 minutes avec lui, et vous allez dire, mais c'est André, non? La même passion. Les gens viennent me voir, ils me disent la même passion que toi. Il a un tel amour, parfois il parle de Jésus, il a les larmes qui jaillissent dans ses yeux. Son frère est aîné, c'est la même chose. Jérémie, il parle de la... Lui, c'est un pasteur, il aime les gens. Passion. Et il en pleure. Wow. Ce que tu appelles, Dieu va le faire. L'esprit de prophétie, mes amis, c'est plus que de donner des paroles. C'est proclamer l'intention de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur votre maison? Qu'est-ce que Dieu dit sur tes enfants? Qu'est-ce que tu es décidé à dire et de proclamer jusqu'à ce que ces choses viennent à l'existence? Romains 4, 17. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Les miracles, les signes, les prodiges, je vous assure, j'en ai vu quelques-uns depuis... Ma conversion sont le fruit de gens qui ont la passion du royaume de Dieu, qui sont passionnés de Dieu, qui ont cette soif. Et cette soif, elle nous appelle au changement. Alléluia. Cette soif, elle nous amène à la repentance. C'est quand Dieu m'a visité, j'ai dit, mais Seigneur, montre-moi mon péché. Moi, je ne voyais pas mon péché. Les autres le voyaient. J'étais pasteur, hein, prophète déjà. Je faisais encore déjà des miracles. J'avais vu des guérisons spectaculaires de cancer. Et d'autres maladies incurables que Dieu avait magnifiquement libérées, guéries. Alléluia. Et toutefois, mon caractère avait besoin de changer, je ne le savais pas, mais ma soif de Dieu m'a amené à un changement culturel. J'ai dit à Dieu, j'ai fait la prière de David, Cette prière, on va la faire ce soir. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et montre-moi si je suis sur une voie de péché. Et connais-moi sur la voie éternelle. Et je disais à peu près à ceci dans mon esprit, je dis, Seigneur, sonde-les, vois leurs péchés. Moi, je disais, mes frères de l'équipe, ils sont jaloux. C'est pour ça qu'ils ont du mal avec moi. Ils sont jaloux parce que moi, j'ai l'onction, ils n'ont pas. Pourtant, ils n'ont pas comme moi. Voilà, le jour où l'Esprit de Dieu nous visite, hein, il remet les choses, vous savez, dans l'ordre. Alors, Dieu m'a fait grâce. Hein. Le lendemain, j'ai eu un rêve. J'étais à la fin d'une mission. Alors, je me souviendrai toujours, c'était à Valence, dans l'assemblée de Francis Roméas, roi, où je suis le vis-à-vis. Et je me souviens donc à la fin, le dernier jour de la mission, heureusement c'était le dernier jour, je fais un songe, je vois un homme qui marche dans un puits au milieu des excréments et ça colle au basque. Et il y a des vers et ça pue. Et je me réveille, je dis, allez, arrive-moi Satan. Puis dans la journée, une petite voix qui me dit, et si t'es pas le diable? Et j'ai dit à Jésus, vous savez, je suis entier, je dis à Jésus, si c'est toi, redonne-moi le songe. La semaine suivante, remets-moi le songe. Oh là, j'ai dit, là c'est grave. Alors j'ai dit, je vais aller vers celle qui m'a toujours protégé, qui a toujours été avec moi dans mes douleurs, mes joies, mes succès, mes insuccès. C'était mon épouse. Et je lui raconte le rêve. Et je lui dis, elle va me délivrer, elle va me sauver. Elle m'a dit, je vais prier pour toi. Tu vas être comme délivré. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a répondu ce que Nathan a répondu à David. Elle a dit, André, tu es cet homme-là qui marche au milieu de la boue et des excréments. Ma femme. Voyez-vous, un immeuble de 10 étages qui se lézarde, du bas en haut qui s'écroule. J'avais fait cette prière, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Cette soif de Dieu a amené la vérité, la réalité du regard de Dieu sur ma vie. Ce laser de Dieu qui m'a, ça a détruit quelque part. Toute la puissance du mensonge qui avait été bâti dans ma vie, toute la puissance de l'orgueil, tout l'homme arrogant que j'étais, le mari despotique, despotique avec sa femme, despotique avec ses enfants. Vous savez, quand Dieu m'a visité, il m'a rempli de son esprit, il m'a dit, mais André, pour que le cercle soit fermé, il va falloir maintenant que tu pratiques les œuvres dignes de la repentance. Et j'ai dit, Jésus, tu m'as tellement travaillé que je suis prêt à aller jusqu'à Paris, à genoux s'il le faut, pour voir ta gloire. Il m'a dit, tu ne vas pas aller à Paris à genoux, tu vas aller trouver ton père et ta mère, mais pardon pour le fils arrogant que tu as été. On était en rupture avec mes parents. Parce que nous, on avait choisi la bonne part, vous savez, la part charismatique. Donc, en fait, on a joué l'esprit de la secte. Et on a privé mes parents, on n'avait pas le droit, de voir leurs petits-enfants, parce que j'estimais qu'ils n'étaient pas conformes à la vie dans le royaume. Vous voyez le jugement qu'il y avait dans un fils. Et Dieu qui vient, il met son épée, il dit, mais André, tu vas aller demander pardon à tes parents. Et je vois encore ce moment où je vais trouver mes parents, je téléphone à mon père, à ma mère. Elle me dit, je lui dis, maman, je voudrais vous rencontrer, je voudrais partager avec vous. Et mon père a eu tellement peur parce qu'il connaissait le lascar que j'étais. Il est sorti devant ma mère pour la protéger. Et il me dit, tu viens faire quoi? Et moi, vous savez, là je n'étais pas l'arrogant. J'étais simplement le fils qui venait du 15, hein, dans la repentance pour dire à son papa, je te demande pardon, papa, pour le fils que j'ai été. Je demande pardon, je me tourne vers la maman, je passe derrière, je dis, maman, je te demande pardon pour l'homme tellement méchant que j'ai été. Je demande pardon pour l'arrogance de mon cœur, pour le mal que je vous ai fait. Je viens vous demander pardon et je vous demande de prier pour moi, pour libérer la bénédiction. Et à ce moment-là, je vois mon père, les yeux remplis de larmes. Et mon père me dit, André, j'aurais tellement aimé vivre ce moment-là avec mon propre père. Voilà ce que la passion de Dieu peut amener. Mais quel bouleversement, quelle transformation, quel changement de culture. Et puis chacun de mes enfants qui vient voir, qui voit son papa venir, qui se met à genoux depuis l'aîné jusqu'au plus petit, pour dire, je te demande pardon pour le père dur que j'ai été, pour les paroles blessantes que je t'ai données, pour le manque d'amour que je n'ai pas manifesté, que je me l'aurais dû. Je vois mon fils Jérémy qui me supplie de me relever, qui ne supportait pas de voir son père en larmes à genoux devant lui. Et Jérémy qui dit, papa, relève-toi. Je dis, non, Jérémy, laisse-moi accomplir cette justice. Et je dis, Jérémy, tu vas prier pour libérer la bénédiction sur papa. Quelle fête. Vous savez, mes fils sont devenus mes amis. Dieu a guéri notre maison. Dieu a guéri profondément notre relation. La puissance de l'amour de Dieu a tellement grandi au milieu de nous. On a commencé à collaborer dans le ministère. Et c'est une telle joie, une telle gloire, un tel honneur que de servir avec l'épouse que Dieu avait préparée pour moi. Cette femme qui avait dit et qui disait pendant des années, j'épouserai un missionnaire. Alléluia, je suis devenu un missionnaire. Je crois qu'on ne va pas aller plus loin. Il y a beaucoup de points encore à partager. Mais j'aimerais qu'on laisse l'Esprit de Dieu venir au milieu de nous dans ces temps. J'aimerais inviter l'équipe de chant. Je voudrais vous inviter à vous lever. Et j'aimerais que vous avanciez, tout qu'on s'avance tous. Vous savez, quand on vous demande d'avancer, c'est moi qui ai demandé à Luc de vous faire avancer parce que dans le fleuve, il se passe des choses incroyables. J'ai des témoignages, je vous en raconterai demain, de personnes qui ont été guéries surnaturellement, qui sont venues simplement dans la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter à venir dans ce fleuve de gloire-là. Si vous désirez changer, si vous aspirez à ce qui est un réveil dans votre vie, si vous désirez ardemment trouver la passion ou retrouver la passion de son nom, alors venez, s'il vous plaît, ne restez pas en arrière. Venez tel que vous êtes. Vous ne venez pas avec la culpabilité, avec des jugements. Vous venez devant un Dieu qui vous aime avec passion et qui veut vous révéler son amour, sa grâce. Avancez-vous, avancez-vous, avancez-vous. Alléluia, dans le chant d'adoration. Wow. Je vous invite à vous tenir devant la présence de Dieu, peut-être ouvrir vos mains devant le Seigneur, en attitude de réception. Et alors qu'on va, on va adorer le Seigneur ensemble, faites monter vers Dieu la prière que vous avez besoin de faire monter ce soir. Peut-être que votre cœur est sec. Peut-être qu'il y a eu tellement de blessures que vous n'arrivez pas à trouver la passion. Peut-être que tu as peur de Dieu. Peut-être qu'il y a eu une telle douleur dans ton âme. Parce que dans ton enfance, tu as tellement rencontré de blessures de la part de ton papa et tu t'es identifié tout à l'heure à ce que je partageais. Et ce soir, dans sa maison, le Seigneur veut toucher ce qui va être touché en nous, au niveau de notre culture. Peut-être que tu es en rébellion parce que tu as vécu l'injustice. Peut-être que tu es même en pétard avec Dieu, ça peut arriver. Et ce soir, il ne vient pas pour te condamner, il vient pour te relever, te guérir, te libérer. Tu peux peut-être simplement dire à Jésus ce soir, je ne sais pas comment prier, mais je t'en supplie, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Laisse passer son sang pour le rachat de tes fautes. Il veut passer la main par la fenêtre pour que tes entrailles soient émues. Je t'aime d'un amour éternel. Je te conserve ma bonté. Je veux te visiter. Car tu es ma bien-aimée, mon bien-aimé. Descends, Saint-Esprit, viens visiter ton peuple, viens le guérir, le secourir, viens le changer, le bouleverser. Alléluia. Et son onction s'approche de nous. Son amour s'approche de nous. Est-ce que tu désires, il veut l'exaucer. Si tu as besoin de tomber amoureux de nouveau de Jésus, dis-le à lui. Tu peux lui dire, mais réveille l'amour, réveille la passion. C'est ce que la femme va dire, on le lira demain. C'est le temps de chanter, c'est le temps de psalmodier. L'hiver est passé, la pluie a cessé. Alléluia. Et si vous avez besoin de pleurer, laissez couler les larmes. Si vous avez besoin de vous mettre à genoux, vous prosterner devant Dieu, faites-le. En tout cas, je sens une vague de son amour qui est préparée à venir sur plusieurs ce soir. Oh, alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ce soir? De quoi as-tu besoin? Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu veux que je réveille en toi par mon esprit? Tout ce qui est marqué par le deuil, par la mort, tout ce qui a été comme avorté du plan de Dieu dans ta vie, tout ce que ton caractère, parfois violent comme le mien, n'a pas pu libérer, l'Esprit du Seigneur qui est sur toi va faire une œuvre qu'aucun autre que lui ne peut faire. Prions à toi, Jésus, viens réveiller.
Viens réveiller ce qui est endormi, viens. Vivifier l'esprit de ton peuple, l'esprit de tes enfants. Il y avait un vent qui va venir.
Alléluia. Ton amour, Seigneur.